Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, l'équipe de Radio Foot, toujours debout pour être de retour en direct, rien que pour vous. C'est que nous avons pas mal de choses à nous dire. Ça joue notamment au Stade de France, France-Moldavie, affiche de gala sous les yeux d'Antoine Grenier. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous, vous avez bien fait de rester au chaud Hugo.
Jeudi affiche de gala pour me moquer, mais pas que Antoine, l'enjeu sportif, vous allez nous le confirmer, a nettement diminué puisque c'est officiel, les Bleus iront à l'Euro et c'est l'Islande qui a validé leur billet avant même le coup d'envoi de la rencontre.
Et oui, les Islandais devaient s'imposer absolument face à la Turquie et ils n'y sont pas parvenus. 0-0 en sol turc. Les Turcs sont donc qualifiés. Il faut dire qu'ils ont fait une belle campagne d'éliminatoire. Quant aux Français, il y a quand même un petit peu d'enjeu, même s'ils sont qualifiés. Et ben, il y a la place, la première place du groupe
Bien
H
sûr.
Et cette place de tête de série qui se joue là en ce moment face aux Moldaves.
Il va falloir faire mieux puisque pour l'instant, un partout au Stade de France, les Bleus tenus en échec.
Exactement, ce sont les Moldaves qui ont ouvert le score dès la 9e minute. On y reviendra évidemment, cette énorme erreur de Clément Lenglet qui rate deux remises de la tête vers Steve Mandanda. Et puis l'égalisation de Raphaël Varane à la 35e minute de la tête. Et je peux vous le dire Hugo, on a parlé dans Radio Foot, on connaît la main de Thierry Henry. Ben maintenant, il y aura la non-main d'Olivier Giroud.
Très bien, l'histoire s'écrit sur Radio Foot, dans Radio Foot ce soir. Antoine, à tout de suite, à mes côtés, en studio, deux visiteurs du soir, Romario Bebeto, Lennon McCartney, Starsky Hutch. Choisissez votre duo, nous on a Nabil Djellit, Patrick Juillard. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
Alors vous êtes là pour nous parler de l'équipe de France et de sa prestation tiédasse pour l'instant contre les Moldaves. Vous êtes également là pour parler des éliminatoires de la CAN 2021, des matchs qui se déroulent aujourd'hui suite de la première journée de la phase de groupe. Merci à David Finzel et à Laurent Salerno. Radio Foot, c'est parti. Et avant de retourner au Stade de France, on va justement parler de ces éliminatoires de la CAN 2021. Petite sensation, dans le groupe G, les Comores sont allés s'imposer au Togo 1-0. Et le sélectionneur des Comores, justement, des Sélacantes, Amir Abdou, est avec nous en direct. Bonsoir Amir.
Bonsoir à vous.
Félicitations pour ce succès face aux Togolais, 1-0, but de Selemani à la 50e minute, passe décisive de Ben Fardou. J'imagine déjà que vous êtes très heureux, d'autant que ce succès il est historique, c'est ça?
Oui, bien entendu historique, on est en train de savourer cette victoire, qui est la première sur le continent au niveau des Comores, pardon. Voilà, donc on essaie de se construire et voilà, simplement mérité notre victoire, surtout qu'on a fait une bonne préparation au mois d'octobre à Paris. On avait battu la Guinée au match amical. Voilà, on est sur le bon chemin et on est très déterminé à aller à la CAN.
Alors qu'on confirme, c'est la première victoire à l'extérieur dans une compétition CAF, dans des éliminatoires.
Oui, c'est bien ça, oui.
Eh bien, écoutez, quel exploit. Patrick Juillard, une question pour vous, Amir Abdou.
Oui, bonsoir coach, et toutes mes félicitations pour ce résultat, et puis pour ce résultat qui valide tout un travail que vous menez depuis plusieurs années à la tête de cette équipe. C'était aussi l'anniversaire, je crois, du buteur du jour, donc c'est un beau cadeau qu'il s'est fait et qu'il a fait à toutes les Comores. Comment voyez-vous la suite des événements? Parce que vous commencez très fort, en sachant qu'en plus l'Égypte a été tenue en échec chez elle. Comment vous voyez cette réception de l'Égypte qui va vouloir rattraper des points perdus aujourd'hui à domicile?
Écoutez, déjà sur ce premier match qu'on a joué, pour nous, il était important de se rassurer et de rester dans cette dynamique qu'on a eue au mois d'octobre. Les garçons ont fait plus, parce que l'objectif c'était de venir chercher un match nul. On était allé chercher une victoire. On sait que pour exister et espérer pour une qualification, pour une CAN, les deux premiers matchs sont très importants. Donc je pense qu'on a fait le job sur ce premier match. Maintenant, on va jouer à domicile contre l'Égypte chez nous. On va jouer sur notre nouveau stade. avec une capacité de 15 000 places. On avait un stade assez vieillissant. Maintenant, on va rentrer dans le nouveau stade puisque le public nous attend beaucoup. Les gens font la fête aux commandes. On va être poussé par le public. On attend l'Égypte de pied ferme. Voilà. Après, comme je l'ai dit, on reste confiant. L'objectif, c'est d'aller chercher encore des points et d'engranger le maximum de points pour atteindre notre objectif qu'on s'est fixé avec les joueurs.
Alors, Patrick Juillard le disait, hein, l'Égypte tenue en échec à domicile par le Kenya, l'Égypte qui a du mal, hein, clairement. En 2019, votre prochain adversaire, Amir Abdou, cette sélection des Comores, vous l'avez, pas vous tout seul, mais vous en grande partie, ressuscité. Le terme n'est peut-être pas trop fort. En 2014, en 2019, vous avez failli valider un billet pour la CAN. On sait que ça s'est terminé, la phase éliminatoire de la CAN 2019, de manière un peu douloureuse. Et vous avez même, il y a même tout un volet administratif qui a été également douloureux pour vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne vous a pas coupé dans votre élan. Ce travail de construction, il se poursuit. Vous allez peut-être, en tout cas, vous pouvez prétendre en récolter les fruits pour 2021. Et c'est votre ambition, j'imagine.
Oui, bien entendu, on monte crescendo, on sait que on est tous des compétiteurs, les joueurs on a un peu marre de passer pour les victimes, quoi. Donc et aussi pour les petits poussés. Non, ben on s'ouvre un petit peu, on a envie aussi de participer à des grandes compétitions comme la CAN. Voilà, on va tout faire pour y arriver, mais voilà, bien parti. On a un capital confiance maintenant avec l'euphorie et l'état d'esprit que le groupe a, que le groupe dit très bien. Voilà, on va essayer de titiller l'Égypte chez nous. Voilà, mais comme je l'ai dit, l'important c'est de démarrer ce mini championnat qui est important puisqu'on partira après au mois de septembre 2020. Voilà, donc à nous de prendre le maximum de points pour espérer une qualification.
Pas de mots celles, hein, vous me confirmez. Face non. à vous,
ouais.
C'est dommage,
non, pour
dommage
le public.
De pas accueillir mots celles, mais bon, sportivement, c'est peut-être une bonne
content.
Nouvelle pour vous.
Moi,
oui, vous, oui.
Effectivement. Nabil Djellit, t'as une question pour vous,
Amir. Mossala, il était à la CAN, ça s'est pas forcément toujours bien passé.
Ah, mais tout à fait, oui.
Donc, moi, c'est plus par rapport à votre réservoir, à votre potentiel. Alors, je vous suis depuis quelques temps et très sincèrement, je suis content de voir votre évolution. Je me souviens d'un match qui m'était un petit peu resté en travers la gorge face au Maroc lors d'éliminatoires ou sur la fin. Bon, pour moi, vous aviez été, moi je m'en cache pas, hein, vous aviez été volé. Il n'y avait absolument pas pénalty. Donc vous avez aussi, vous êtes en train d'acquérir aussi de l'expérience au fur et à mesure face à des bonnes équipes africaines. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous courtisez encore, que vous souhaitez voir rejoindre votre groupe et qui sont hésitants, voilà, même si ceux qui sont là font très bien le travail?
Bonsoir Nabil.
Bonsoir.
écoutez, moi, comme je le dis depuis que j'ai pris la sélection, on essaye un petit peu de. On est des commerciaux un petit peu, hein, les sélectionneurs africains. Donc on essaye de demander.
Amir Abdou, excusez-moi, je vous coupe. Votre ami Antoine Grenier, que vous connaissez bien, notre collègue RFI, est au Stade de France, France-Moldavie. Il y a un pénalty. On va le laisser nous raconter ça et on vous reprend après.
Antoine. J'aurais pas interrompu Amir Abdou pour rien.
Bien sûr.
Le retournement de situation ici au Stade de France. La faute moldave sur Lucadine qui tentait une percée à 6 mètres début de l'équipe de Moldavie. Un tacle pas du tout contrôlé de Posmak qui vient sécher, il n'y a pas d'autre mot, le latéral gauche de l'équipe de France. L'arbitre de la rencontre n'a pas hésité une seule seconde. Il accorde un pénalty au bleu et ça proteste un petit peu du côté de la Moldavie. Il y a un carton jaune qui suit et on va peut-être assister au pénalty frappé par Olivier Giroud. On va peut-être assister à son 39e but en équipe de France, si ma mémoire est bonne. Il a marqué un pénalty face à l'Islande il y a deux matchs. Il avait été décisif également contre la Turquie et là le buteur de Chelsea se prépare à frapper ce pénalty. Il fait face à Kochelev et il va frapper du pied gauche. Olivier Giroud, l'arbitre fait sortir Kylian Mbappé qui traîne un peu pour sortir de la surface. Ça y est, tout le monde est en position. Olivier Giroud qui s'élance, qui frappe et c'est dedans. Le contre-pied parfait. Olivier Giroud, libère l'équipe de France. 2-1 pour les Bleus, alors qu'ils étaient en difficulté depuis le début de cette partie. Olivier Giroud, encore, toujours lui, libère l'équipe de France. 2-1 pour les Bleus.
Antoine Grenier au Stade de France, on quitte Saint-Denis, on quitte l'Europe et on retourne en Afrique, au Togo. Amir Abdou, le sélectionneur des Comores qui se sont imposés sur le terrain des Éperviers tout à l'heure pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021 est en direct avec nous. On vous a coupé, désolé mon cher Amir Abdou, vous répondiez à Nabil Djellit, je vous laisse continuer.
Oui, je disais que c'est vrai que il y a beaucoup de joueurs qui émergent dans le championnat européen et c'est vrai qu'on aimerait les toucher. Mais
qui alors, par exemple?
Alors, il y a Wesley Saïd.
Ah oui.
On aimerait avoir Wesley Saïd, mais il peine un petit peu à venir chez nous.
S'il espère l'équipe de France, vous pouvez lui dire que c'est trop tard.
Ça fait un argument.
Oui, après, c'est ça. Oui, après, il y a aussi Méziane Nolida qui est à Nice aussi. Qu'on aimerait aussi avoir aussi avec nous. Après, il y a Rokia,
Christopher, Rokia aussi, latéral gauche à Sochaux. Ouais.
Latéral gauche de Sochaux. Voilà, ce sont des
c'est
joueurs
pas mal.
Qui. Ouais, c'est pas mal. C'est des joueurs qui pourraient nous apporter plus au niveau de notre sélection. D'autant plus que le groupe vit bien. On n'a pas des joueurs qui jouent vraiment dans des grands championnats. Mais voilà, il y a un groupe assez soudé, une cohésion qui travaille beaucoup. Et les joueurs, les garçons sont très réceptifs par rapport aux objectifs qu'on s'oriente et qu'on se donne. Et puis voilà, donc ces joueurs-là, on aimerait les avoir. Et aussi, bon, bien entendu, il y a le petit Youssouf Zaïdou qui est actuellement qui est sur un nuage avec Saint-Étienne. Voilà, donc voilà, tous ces joueurs-là qui sont d'origine comorienne, mais voilà, après bon. C'est pas facile, mais c'est vrai que il y a certains joueurs qui ont dépassé, sont entre la pas loin de la trentaine. Ça serait bien qu'ils prennent une décision assez rapidement parce que comme Wesley Saïd qui pourrait nous faire du bien à cette équipe-là.
Merci beaucoup, Amir Abdou. On va vous laisser reprendre l'avion. Il me semble que c'est ça, votre programme immédiat.
C'est ça, on a un vol direct, ouais.
Rentrer au pays, vous reposer, récupérer avant de recevoir l'Égypte et le leader du groupe. Ne l'oubliez pas, c'est vous. À mon avis, vous allez pas l'oublier. On vous souhaite bon courage pour cette confrontation face au Pharaon. Et encore félicitations pour votre belle Merci. Performance sur le terrain des Togolais, cette victoire historique. Vous me confirmez donc la première victoire dans une compétition officielle. On va dire ça comme ça, des Comoriens à l'extérieur.
À l'extérieur, c'est bien ça, oui. Il fallait bien le faire depuis un certain temps qu'on attend. Donc voilà, donc on est fiers, on est très contents, on va le savourer et en espérant que cette victoire va amener d'autres.
C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Amir Abdou d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot International. Bonsoir à vous. Retour en Europe où on reprend la direction de l'Europe. Je ne sais pas trop comment le dire. Les éliminatoires de l'Euro 2020. Cette fois France-Moldavie au Stade de France. Antoine Grenier. Encore 10-15 minutes à jouer en comptant le temps additionnel. La France qui, devant son public, mène 2-1. Olivier Giroud encore lui a redonné l'avantage, a donné plutôt l'avantage aux Bleus qui n'avaient pas encore mené dans cette rencontre. Comment ça se passe? La France pas loin d'en inscrire un troisième peut-être?
Ça pousse, mais ça pousse comme ça pousse depuis le début de la seconde période. On voit une équipe de France dont le visage est vraiment très différent de ce qu'on a vu en première période. Les Bleus ont le monopole du ballon, mais surtout, ils l'utilisent beaucoup mieux parce que c'est bien beau d'avoir le pied sur la balle. Bah, si vous en faites rien, c'est plus compliqué. On voit des combinaisons plus efficaces. On voit des dédoublements entre Mbappé et Griezmann. On voit un Giroud toujours aussi agressif sur le devant de l'attaque française. Et Giroud, vous le disiez Hugo, il offre le but du 2-1 à l'équipe de France. Il lui offre surtout la première place de ce groupe H puisque les Bleus passent devant la Turquie et c'est ça l'excellente opération pour les Bleus de Didier Deschamps. Alors que là il y a un coup franc intéressant à jouer pour l'équipe de France. On est sur le coin gauche de la surface de réparation. Coup franc qui va être frappé par Antoine Griezmann. Ça va être sortant. Deuxième poteau. Et c'est capté par Kochelev sans difficulté. On en reste à 2-1 alors qu'il reste pile 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
Patrick Juillard, la première place du groupe, c'est important dans la perspective du tirage au sort de l'Euro.
Oui, absolument. On ne va pas expliquer en détail à nos auditeurs qui pourraient
Il est trop tard. Il est trop tard. Le risque de les voir s'endormir.
C'est assez compliqué comme ça, avec une histoire de chapeau, de peau et de pondération et de péréquation. Mais quoi qu'il arrive, il vaut évidemment mieux finir premier. Et c'est ce que la France est en train d'assurer en gagnant ce match. Bien petitement, sûr. Mais sûrement.
Petitement, oui. Je pense
oui,
qu'on peut
mais
le
après,
dire.
C'est aussi un scénario qui a été défavorable. C'est vrai que la Moldavie a profité d'une erreur assez béante de Clément Langlais et aussi de Steve Mandanda. Il y a eu un problème de communication.
C'est surtout l'anglais, quand même.
Ouais, mais bon, Mandanda, je sors pas. Ça n'a pas non plus été très tranchant du côté du gardien olympien. Ensuite, c'est une équipe qui a pris de la confiance, qui a joué en bloc bas et puis qui joue un peu le match de sa vie.
Antoine Grenier.
Kylian Mbappé qui reçoit le ballon au point de pénalty, une passe lumineuse de Coman entre deux défenseurs. Il rate un petit peu son contrôle, l'attaquant du PSG, et puis il est gêné par un défenseur. On en reste à 2-1. Excusez-moi, messieurs.
Nabil, on vous a coupé.
Non, mais je veux dire, c'est un scénario auquel on ne s'attendait pas forcément. On pensait que l'équipe de France allait dérouler face à une équipe moldave qui est, disons-le clairement, sur ses éliminatoires, une des équipes les plus faibles d'Europe.
Oui, qui a même été battue par
Andorre. Ouais, donc voilà, c'est incroyable. Hein, c'est l'infiniment petit et l'infiniment grand d'un coup pour cette équipe moldave, parce que pour être battu face à Andorre, il faut y aller, hein, historiquement. Et pour accrocher à un tel point et même mener contre l'équipe de France qui est championne du monde, ça peut paraître assez exceptionnel. C'est un peu un grand écart auquel moi je ne m'attendais pas du tout.
Patrick.
Non, faut faire attention parce que le Togo pouvait se dire la même chose pour se faire battre chez soi par les Comores.
Enfin, le Togo n'est pas champion du monde.
Non, mais je sais bien, mais relativisons. Mais effectivement, on ne les voyait pas à ce niveau-là, ces Moldaves. Bien organisés, un bon gardien de but.
Et puis, c'est discutable, hein, le but, voilà, le but français.
L'égalisation est discutable puisqu'il y a quand même Giroud. Alors, on dit la non-main qui. Il tente visiblement de toucher un ballon de la main.
Vous pouvez participer, Antoine, bien sûr, mais parce que là, on réagit à votre appellation.
Il y a surtout quand même un semblant d'obstruction et de charge irrégulière sur le gardien qui n'est pas sanctionné. Alors, c'est vrai que c'est dans un duel, c'est dans le feu de l'action et qu'il n'y avait pas de vidéo, mais en d'autres lieux, avec d'autres régimes VAR, le but aurait pu être refusé.
Vous l'auriez accordé, vous, Antoine ?
À vitesse réelle, très franchement, Olivier Giroud, il est tourné vers le ballon. Il ne voit pas le gardien, il n'y a pas de volonté d'aller gêner le gardien. À vitesse réelle, le but est tout à fait accordable. Le ralenti est un petit peu plus cruel. Et d'ailleurs, les Moldaves ont tout de suite protesté comme un seul homme. Hein. Les 11 joueurs sont venus vers l'arbitre de la rencontre pour lui signifier qu'il y avait un petit truc litigieux sur cette action de la part d'Olivier Giroud. Mais le but a été validé. Donc les Bleus, après, c'est à nouveau, hein, la main de Thierry Henry avait mené un but de William Gallas. Là, la non-main d'Olivier Giroud amène un but de Raphaël Varane.
Il y a pratiquement 10 ans, pardon, jour pour jour, hein, cette fameuse main de Thierry Henry.
Ne vous rappelez pas ces souvenirs affreux.
Vous les voyez, bah, trop tard, on l'a fait tout à l'heure, cet après-midi, Antoine peut en témoigner. Vous les voyez revenir, ces Moldaves, où ils semblent trop émoussés, où la France maîtrise trop bien son sujet.
Là, ils sont cuits, les Moldaves, les contre-attaques qu'ils tentent, comme celle-là, où ils lancent leur arrière-gauche, elles sont arrêtées très très vite par un N'Golo Kanté, qui est encore une fois énorme. Il fait beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe de France. Il avait manqué lors du dernier rassemblement, N'Golo Kanté. Là, il a repris ses habitudes et les Moldaves défendent et cherchent surtout à pas en prendre un troisième pour que la défaite ne soit pas trop lourde face aux Bleus.
Voilà, au moins il y a des motifs de satisfaction d'un point de vue des performances individuelles, Nabil. N'Golo Kanté,
ouais,
qui N'Golo revient,
Kanté, ouais,
taille patron.
Ouais, qu'on avait vu un peu en difficulté en Première Ligue, ces derniers temps, mais c'est sûr que c'est un élément qui est indispensable. Il faut pas non plus oublier qu'on joue sans Paul Pogba, qui est le pendant et celui qui forme un binôme, et c'est assez impressionnant avec N'Golo Kanté. Après, bon, on retrouve. Moi, j'ai bien aimé également le dépensement de fonction sur le côté de Dean, qui a été à une époque pas mal critiqué. Finalement, on se rend compte que c'est une excellente doublure à Lucas Hernandez, et c'est un garçon qui est intéressant sur ce qu'il montre. Après, peut-être que parfois, je sais pas du stat, je voulais demander à Antoine, est-ce que parfois vous avez l'impression qu'il y a des excédents?
Attention à ce ballon pour Olivier Giroud. Oh, l'arrêt de Kochelev sur cette reprise de Giroud Benjamin Pavard qui s'était infiltré du côté droit, qui avait centré au 6 mètres. Giroud qui reprend, bonne sortie de Kochelev qui va bénéficier du 6 mètres. C'était encore chaud devant la cage moldave. Les Bleus continuent à essayer d'aller chercher ce troisième but.
Ouais, Antoine, est-ce que vous trouvez qu'il y a des excès d'individualisme ou pas par séquence de Kylian Mbappé? C'est une question que je me posais.
C'est exactement la réflexion que je me suis faite. Kylian Mbappé, alors il faut se souvenir aussi qu'il a raté le dernier rassemblement. Il était parti avant même le départ de l'équipe de France pour l'Islande parce qu'il était en délicatesse avec sa cuisse. Et on sent qu'il a envie de bien faire. Et le problème de Kylian Mbappé quand il veut bien faire, bah, c'est qu'il a tendance à en faire trop. Et il y a souvent des mauvais choix et il y a souvent effectivement une volonté de faire la différence tout seul ou à essayer de trouver la passe absolument miraculeuse alors qu'il y a beaucoup plus simple à faire. Et Kylian Mbappé est un petit peu décevant d'ailleurs, il n'est pas décisif sur cette partie et ça veut dire beaucoup quand Kylian Mbappé n'est pas décisif dans un match comme celui-là.
Patrick Juillard.
Oui, je suis d'accord, je trouve qu'il a manqué de justesse, on l'a vu en première mi-temps, il a une occasion, il est un peu excentré, il efface son défenseur par sa vitesse et il vrille un peu sa frappe au-dessus de la barre. Il y a quelques fois où il essaye de finir tout seul alors qu'il y avait une situation de passe sans doute plus exploitable.
Et attention à ce ballon dans la surface pour Antoine Griezmann. Il avance et il la passe vers l'arrière, vers Kylian Mbappé. Bon retour défensif d'Armache qui met le ballon en corner.
J'espère que Michel Platini ne nous écoute pas, ne vous écoute pas, mon cher Antoine Grenier. Il va craindre pour son statut de deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Olivier Giroud s'est rapproché à deux unités, hein, me semble-t-il.
Ah bah, au rythme où il va, il le dépasse. il le dépasse.
Et en plus, surtout, je pense qu'il y a les pénaltys. Ça fait deux pénaltys de suite, là, contre l'Islande et un contre la Moldavie. On lui laisse aussi les pénaltys, mais je pense que c'est une consigne de Didier Deschamps pour légitimer aussi sa présence d'une certaine manière.
Je pense quand même qu'il faut relativiser ces chiffres, non pas parce que c'est pas les mêmes époques et ni les mêmes joueurs, mais c'est parce que à l'époque de Platini, l'équipe de France jouait moins de matchs, les éliminatoires étaient plus resserrés, il y avait moins de matchs amicaux, et on regarde les stats, Platini c'est 41 buts en équipe de France en 72 matchs, en 72 sélections, Giroud c'est, je crois, ça doit être 39 maintenant, en 93. Donc c'est quand même c'est pas le même ratio, hein. C'est pas le même ratio. Ça n'enlève rien au mérite, mais ça permet aussi de recontextualiser les choses.
On rappelle que en club, il est notamment barré par le jeune Abraham à Chelsea. Abraham qui vient de marquer pour l'Angleterre face au Monténégro. Pas exactement le but de la victoire. Ça fait 7-0 hein, pour l'Angleterre. Le match approche de sa fin et la qualification au bout. Très logiquement pour les
ça serait dommage
pour les trois Lions
ce score-là ne suffise pas.
Retour au Stade de France, les dernières minutes, seconde France-Moldavie, avant-dernière journée de la poule des Bleus dans les éliminatoires de la CAN.
Non mais moi je le dis très honnêtement, je veux pas être.
Mais il y a Antoine Grenier envie de rentrer au show aussi. Mais il y a encore un match.
Je vais être direct avec vous. J'ai hâte que ces éliminatoires se terminent, tout simplement. Et moi je plaide aussi un peu comme Patrick à ce qu'à terme elles soient réformées. Pour avoir des matchs quand même d'une autre intensité, plus intéressants. Alors, c'est pas le bon exemple ce soir.
Non, mais vous prenez les 20 équipes les moins bien classées de la zone euro, vous faites un tour préliminaire, vous en gardez 10 et vous faites des poules resserrées. C'est ce qui se fait en zone Afrique d'ailleurs. Il y a des tours
l'exemple,
préliminaires.
C'est l'Afrique.
Non, mais là-bas, c'est aussi pour des raisons de calendrier, d'organisation et d'éviter trop de trajets, de dates et de rendez-vous à tenir, des rendez-vous lointains souvent avec des transits difficiles. En Europe, c'est plus simple pour se déplacer, mais il y a des équipes qui ne gagnent rien et ça nivelle vers le bas le foot de sélection et c'est tout bénéfice pour les grands clubs, donc c'est très mauvais.
Alors l'Afrique, on y retourne d'ici quelques minutes. On a parlé de la victoire des Comores ce soir, les éliminatoires de la CAN 2021. D'abord les éliminatoires de l'Euro 2020. France-Moldavie, c'est les dernières secondes. Là, on joue les dernières secondes, Antoine Grenier.
Bah, on devrait jouer les dernières secondes, mais il y a eu un défenseur moldave qui s'est blessé sur une intervention. Et du coup, il est resté au sol. La civière est rentrée. Finalement, il n'est pas monté dessus. Et il sort en boitillant. Du coup, Thomas Lemar attend depuis 1 minute 30 pour frapper son corner. Il est rentré tout à l'heure, l'attaquant, à la place de Kingsley Coman. Voilà, corner frappé par Thomas Lemar, Raphaël Varane avec le ballon dans la surface vers Tolisso, Griezmann vers l'anglais. On se bat, le ballon est dégagé. On en reste pour l'instant à 2-1. On avait 3 minutes de temps additionnel. On en jouera 5 en tout, je pense. Et pour l'instant, les Bleus mènent toujours 2-1.
2-1 dans le groupe H, le groupe B, celui du Portugal. 6-0 pour la Seleção, alors que le match se termine face à la Lituanie.
Ben voilà, c'est ce que
Ronaldo
vient de dire,
ouais. A notamment inscrit un triplé. Le Portugal qui ne peut terminer premier de son groupe, on précise, et qui a priori ne validera pas son billet ce soir, parce que la Serbie est en train de s'imposer également dans son match. Nabil, ouais. Vous vouliez dire quelque chose?
Non, mais c'est ce que expliquait Patrick, des 6-0, enfin des scores de tennis,
ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça enlève rien au mérite du Portugal qui s'est battu sans doute pour. On n'a pas vu le match, mais pour.
Mais qui n'a pas le droit à l'erreur.
Voilà.
Pour ne pas hypothéquer ses chances. Donc,
et mettre toutes les chances de son côté sans coup férir, mais enfin. Sportivement, c'est quand même plus les éliminatoires comme on avait dans les années 80-90.
La Lituanie, c'est
on
un
avait
point.
Des poules avec la Suède, la Bulgarie, la France et
l'Écosse. Enfin,
ou... Voilà, et des pays comme ça. Maintenant, il y a un nivellement quand même. Et ces pays-là ne gagnent rien. Ce serait plus intéressant pour eux d'avoir tous les deux ans un match à gros enjeux pour gagner une place en éliminatoire plutôt que ces matchs où ils servent de défouloir à des grosses équipes qui font tourner, qui. Enfin, c'est pas une bonne publicité pour le football, tout ça.
Il me semble avoir entendu les trois coups de sifflet de l'arbitre.
Exactement. C'est fini. C'est fini ici au Stade de France avec la victoire 2-1 des Bleus face à cette équipe de Moldavie. Les Moldaves qui avaient ouvert le score dès la 9e minute par Reche sur une erreur de Clément Langlais. Les Bleus sont revenus à la 35e minute grâce à l'égalisation de Raphaël Varane. Et puis c'est Olivier Giroud qui a donné la victoire à l'équipe de France sur ce pénalty transformé à la 77e minute. La qualification était dans la poche avant même le coup d'envoi. Les Bleus ont connu 45 premières minutes vraiment très très compliquées. Et puis ils ont relevé la tête après lors des 45 minutes suivantes. Et il y a une petite scène un petit peu cocasse. On voit Olivier Giroud et Kochelev, le gardien moldave, en grande discussion.
On refait français.
On refait exactement, c'est exactement ça. Oui, mais tu m'as touché au niveau de la cuisse. Non, je te jure, j'ai pas fait exprès, j'ai juste plongé. La main, c'est accidentel. Bref, c'est une grande discussion, très, très vraisemblablement en anglais. Hein. Je pense pas qu'Olivier Giroud maîtrise le moldave plus que ça. Mais en tout cas, voilà, l'équipe de France ce soir obtient petitement la première place de son groupe H, mais elle l'obtient. Et c'est ça que les Bleus vont retenir ce soir.
Et vous retenez quoi, vous, Patrick Juillard, Nabil Djellit?
Petitement, mais sûrement. C'est-à-dire que cette équipe de France séduit rarement, perd encore moins et nous laisse quand même toujours un peu songeurs. Quoi. C'est-à-dire que, effectivement, sur le plan des résultats bruts, le contrat est rempli, il n'y a pas de problème. Les résultats sont là, les victoires s'additionnent. Mais on ne sent pas, match après match, on ne sent pas une progression, on ne sent pas que l'équipe se libère. On dirait que ce titre mondial a un petit peu inhibé l'ensemble des joueurs. C'est un petit peu inquiétant et on sent que c'est plus une équipe de tournoi finalement. Et rien ne dit que l'équipe de France ne sera pas encore redoutable sur une phase finale donnée avec un esprit commando comme ce fut le cas lors de la Coupe du Monde.
Antoine Grenier, on va vous libérer, notamment que vous alliez à la rencontre des acteurs juste, de ce France-Moldavie, mais allez-y.
Juste préciser rapidement, Hugo, que l'équipe de France ce soir, elle s'impose après avoir été menée au score. Oui. C'était jamais arrivé dans cette campagne d'éliminatoire. La seule fois où elle avait été menée au score, c'était face à la Turquie. Elle s'était totalement liquéfiée contre les Turcs à Konya. Là, elle est menée dès la 5e minute. Elle peut s'en prendre qu'à elle-même. L'erreur de l'anglais, c'est une erreur individuelle. Mais les Français n'étaient pas dedans. Ça s'est vu que la qualification était en poche. Ils le savaient. Et qu'en face, c'était que la Moldavie. Donc il y a eu un double relâchement. Relâchement de la qualification déjà obtenue. Et relâchement parce que en face, c'était la 175e nation mondiale. Ils se sont certainement fait bien remonter les bretelles. On demandera à Didier Deschamps comment il a géré un petit peu cette première mi-temps difficile et son discours à la mi-temps à ses joueurs. Et en tout cas, on a vu une équipe de France beaucoup plus entreprenante, pas toujours magnifiquement efficace, un peu comme on l'avait vu contre la Turquie, mais on a vu une équipe de France qui a gagné après avoir été menée au score. C'était que contre la Moldavie, mais pour le mental, c'est toujours bon à prendre dans la perspective du déplacement en Albanie dimanche.
Allez, rapidement, on va dire vos tops, vos flops, c'est pas très... Très joli dit comme ça, Antoine. L'anglais, fautif sur l'ouverture du score moldave, c'est
le flop. Oui, il a certainement il a certainement disputé son moins bon match avec l'équipe de France, Clément Langlais. C'était sa 7e sélection ce soir, sa 6e sélection. Et il est vraiment passé à côté de sa première période. Et puis, bah, on va dire, comme d'habitude, le top, c'est N'Golo Kanté qui a encore été absolument énormissime dans tout ce qu'on lui demande. Il le fait et il le fait très très bien. Donc, heureusement qu'il est revenu, N'Golo Kanté, et heureusement qu'il est revenu sur un match comme celui-là.
Merci beaucoup, Antoine Grenier, de nous avoir fait vivre la fin de cette rencontre des éliminatoires de l'Euro 2020 France-Moldavie, avant-dernière rencontre du groupe H, succès de la France 2-1. Bon courage, la soirée est encore longue pour vous, mon cher Antoine Grenier. À très vite sur les antennes de RFI. Vous êtes d'accord avec les conclusions individuelles? Oui. Notre ami Antoine Nabil.
Je suis content parce que si l'Anglais doit faire une bêtise dans l'année, vaut mieux qu'il la fasse ce soir face à la Moldavie que l'été prochain à l'Euro. Moi, je pense que c'est quand même un garçon qui a gagné et pris sa place en défense centrale et qui est un bon complément de Raphaël Varane. Un peu déçu par Kylian Mbappé, même s'il y a des changements de rythme qui sont intéressants. Il est quand même sur le deuxième but puisque c'est lui qui sert digne dans la profondeur. Je trouve qu'il y a eu quelques excès d'individualisme de sa part. Voilà, pour le reste, je pense que ce match-là, on va vite l'oublier et puis on va se concentrer surtout sur le prochain Euro et des adversaires d'une autre qualité, une adversité avec une plus grosse intensité. Et peut-être que justement, on est plus fort avec l'effort que le contraire.
Allez, le mot de la fin sur cette rencontre de l'équipe de France, on va passer à l'Afrique.
On va vite l'oublier, certes, mais on va pas oublier le résultat parce qu'on va dire « Ah, mais on a quand même gagné et tout », mais il faut pas oublier que la France n'a pas résolu son problème récurrent face aux équipes qui jouent en bloc bas et qui la prennent un peu à son propre piège. Et on n'a pas trouvé la potion magique, le mot est fort, mais la méthode pour contourner ces problèmes-là.
La France qualifiée pour l'Euro 2020, tout comme l'Angleterre, succès 7-0 contre le Monténégro. Je ne vous donne pas le nom des buteurs, c'est la liste des buteurs plutôt. Il y a quand même un triplé de Kane à noter. La République tchèque dans ce groupe A, celui de l'Angleterre, également qualifié. La République tchèque menée sur sa pelouse face au Kosovo, renversé la vapeur.
Ça c'est intéressant, le retour de la République tchèque qui avait un petit peu disparu des radars. Une équipe qui a quand même fourni beaucoup de talent au football européen. On se souvient que la dernière génération qui a excellé, c'était celle qui tournait autour notamment du milieu offensif Poborski. On se souvient de Smisser.
Pavel Nedved, peut-être. Qui aurait gagné un ballon d'or.
Voilà, vous avez raison de le rappeler. Mais ça, c'est une curiosité pour moi de revoir la République tchèque à ce niveau, au moment où d'autres équipes, comme la Bulgarie, par exemple, sombre, une Bosnie aussi qui est un petit peu moins bien, la Roumanie qui tâtonne et qui, même si elle a une belle génération, pourrait ne pas y être. Donc voilà, le retour de la République tchèque, ça m'intéresse.
Allez, on va refaire une parenthèse équipe de France, une petite réaction, ça vaut toujours la peine. Didier Deschamps au micro de nos confrères d'M6.
La victoire, et puis bon, un contenu qui ressemble plus à ce qu'on est capable de faire, même si on aurait pu être plus efficace, mais peut-être avec un peu plus de fatigue en face aussi, mais voilà, plus de mouvement, de percussion, on a réussi à faire beaucoup plus d'enchaînement. On a marqué qu'un but, je répète, on aurait pu en mettre plus, mais c'est largement supérieur à ce qu'on a fait en première mi-temps, c'était pas difficile, même si on avait le ballon.
Voilà l'équipe de France, Didier Deschamps, son sélectionneur, succès 2-1 contre la Moldavie, il a tout résumé, hein, comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose à ajouter.
Non mais Patrick a raison, le truc qui est intéressant, ça aurait été une petite souris, être dans le vestiaire à la mi-temps, et voir comment quel levier il a actionné pour que l'équipe réagisse.
Le groupe B des éliminatoires de l'Euro, la France c'est le groupe H, le groupe B, le succès du Portugal 6-0 avec notamment un triplé de Ronaldo commenté par nos confrères de la télévision française. C'est pas M6 cette fois, c'est l'équipe TV.
Regard concentré, il avait quitté Juventus en étant remplacé. Cristiano Ronaldo, c'est parti, c'est touché mais c'est dedans. Il avait inscrit un quadruplé au match aller face à ces mêmes Lituaniens. Il n'a pas fallu longtemps pour le voir trouver le chemin des filets. 7e minute de jeu, le Portugal est devant grâce à Cristiano Ronaldo. Attention là, cette perte de balle avec le ballon récupéré par Ronaldo. Et voilà, on l'avait dit, il avait envie d'inscrire son doublé. Ronaldo qui manque son passement de jambe, mais derrière Bernardo Silva, il a bien suivi. Il a peut-être retrouvé son capitaine. Et oui, Cristiano Ronaldo. Le triplé de Cristiano Ronaldo, son 7e. Sous le maillot portugais,
Les chiffres sont en train de s'affoler. 98e but en sélection pour Cristiano Ronaldo. Le record du monde de buts en sélection se rapproche.
Voilà le cri de victoire de Ronaldo. Le Portugal deuxième de son groupe devant la Serbie qui s'est également imposée. Reste une journée. Le Portugal va affronter le Luxembourg, me semble-t-il, dimanche.
Oui.
Le Portugal deuxième de sa poule. L'Ukraine est loin devant, déjà qualifiée. Le Portugal pas encore qualifié, mais ça sent plutôt bon.
Mais c'est un groupe quand même d'un autre niveau. Je suis désolé, mis à part la Lituanie complètement à côté de la plaque. Mais là, vous avez quand même l'Ukraine, le Portugal et la Serbie. Dans la même poule, c'est des équipes qui sont régulièrement en Coupe du Monde, régulièrement qualifiées également à l'Euro. Après, pour en revenir à Cristiano Ronaldo, bon, il peut payer un restaurant à toute l'équipe de Lituanie, parce que sur les deux matchs, il met 7 buts. Ça contribue fortement à...
Et il va devenir le meilleur buteur en... Alors, il est quasiment à...
Alors, je pense qu'il a 97 buts. Ouais, je pense qu'il a 97 buts avec, il faut vérifier, je dois être à un but près, mais bon, j'espère pas dire de bêtises. Je pense qu'il a 97 buts en sélection, c'est le deuxième meilleur buteur de tous les temps en sélection. Le premier est iranien, on en avait parlé déjà ici. C'est Ali Day, qui est passé par l'Arminia Bielefeld et le Bayern, si je me souviens bien.
Moustache légère.
Voilà. Qui, lui, doit être à 107 buts. Donc, Cristiano Ronaldo, à ce rythme, va devenir, à mon avis, le meilleur buteur de tous les temps en sélection nationale.
Alors, j'ai l'impression que c'est 98 buts.
Ah,
pour,
désolé.
Non, mais voilà, ça reste à vérifier.
97
quoi qu'il
ou 98.
C'est vertigineux.
Voilà, c'est hors norme. Mais en même temps, Patrick, il a raison. Hein, quand vous mettez 7 buts contre la Lituanie, il disait à juste titre Eusebio, à l'époque, c'était l'URSS qui jouait, c'était pas la Lituanie. Je veux dire, on n'enlève rien au génie de Ronaldo, mais l'adversité.
Aujourd'hui, il y a eu un éclatement du bloc de l'Est qui fait qu'il y a plus de pays, donc des éliminatoires plus éparpillés pour les zones euro. Et puis, vous avez quand même des disparités qui sont creusées entre les grands pays. Il y a une mondialisation du football qui est à l'avantage de quelques grands pays où jouent les grands joueurs, dont Ronaldo. Et quand vous jouez des petits pays, on dit qu'il n'y a plus de petites équipes. C'est un peu à double tranchant. Il y a plus de pays, il y a plus de petits pays maintenant. Il y a peut-être moins de petites équipes, mais plus de petits pays. Donc c'est plus compliqué. Quand vous êtes San Marin ou les îles Féroé et que vous jouez le Portugal, l'espoir de victoire est égal à zéro.
Et c'est le Luxembourg qui recevra le Portugal dimanche avec normalement une qualification à la clé pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers.
Qui a battu la Grèce.
Les Portugais, on le rappelle, tenant du titre champion d'Europe en titre. Ce serait étonnant de ne pas les voir à l'Euro. On en reste là avec ces éliminatoires de l'Euro 2020. Il nous reste leur défile et on voudrait quand même parler des éliminatoires de la CAN 2021. Revenir en Afrique quand même. L'ambiance à Bamako, Mali, Guinée, deux partout, c'était l'un des matchs les plus attendus de la soirée. Mali-Guinée, deux partout. Qui fait la bonne opération?
La Guinée.
La Guinée quand même.
Plutôt, oui.
Match nul de partout sur la pelouse du Mali, c'est intéressant.
Ça rassure un petit peu le nouveau staff technique guinéen autour de Didier Six notamment. On sait qu'ils avaient eu des amicaux récemment qui s'étaient pas forcément très bien passés, si je dis pas de bêtises. Ils avaient joué le Chili. Et une autre. Les Comores. Et ils avaient été battus par les Comores, puisque le sélectionneur nous a expliqué tout à l'heure. Le Mali qui avait laissé une bonne image et qui était sur une excellente dynamique lors de la dernière CAN. Bon, voilà, là, ils sont accrochés. Évidemment, on ne tirera pas de conclusion. Il y a de fortes chances de retrouver ces deux équipes à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour la Guinée, c'est un résultat probant.
Mais il y a un coup d'arrêt quand même pour le Mali si on élargit un petit peu toutes les. Cette année, tous les résultats des compétitions de jeunes où le Mali était très fort. Depuis 4-5 ans, là, ça se passe beaucoup plus mal. Et même la CAN, effectivement, la qualité de jeu était au rendez-vous, mais le Mali n'est pas allé plus loin que les huitièmes de finale. Donc, ça reste quand même un petit peu hésitant, tout ça. Et il y a une très belle génération, mais là, ils n'ont pas réussi à conclure, alors qu'ils ont mené deux fois au score sur ce match. Donc, c'est quand même, effectivement, une vraie mauvaise opération pour les Aigles ce soir.
On est dans le groupe A, pour l'instant, dominé par la Namibie, qui avait battu le Tchad hier de buts à 1. La prochaine journée, dans quelques jours, Tchad-Mali, Guinée-Namibie.
Un derby, ça, Tchad-Mali, non?
Tchad-Mali, oui, qui va tirer son épingle du jeu. Guinée-Mali, Guinée-Namibie, pardon, c'est Une belle affiche et du coup, ça va peut-être en dire long sur les hiérarchies à venir dans cette poule.
Non, je pense que la Guinée, quand même, maintenant que la Guinée a récupéré un Naby Keïta sur pied, donc il est là pour mener le jeu. Il a d'ailleurs marqué un début ce soir.
C'est quand même l'une des informations de la soirée d'ailleurs. On peut en parler.
Absolument. Oui, c'est intéressant.
C'est un des vrais plus de cette équipe. Sans, il y a une Guinée avec Naby Keïta et une Guinée sans lui. Et là, il est là. Donc, je pense quand même que l'avantage est nettement pour la Guinée face à la Namibie. Ensuite, le Mali devrait quand même se méfier du Tchad qui a fait plutôt une bonne prestation l'autre jour contre justement la Namibie et qui voudra marquer le coup, marquer son retour un petit peu dans le concert des nations africaines puisque la dernière campagne éliminatoire avait vu le Tchad se retirer en plein milieu des qualifications.
Naby Keïta qui avait presque déjà manqué à la Guinée lors de la CAN, sur une jambe, ouais. Clairement, ça avait été compliqué son état physique, il doit retrouver une place à Liverpool aussi, bref, c'est intéressant, ce but, ce soir, c'est intéressant pour lui, pour le Sili bien sûr, mais aussi pour lui personnellement.
Oui, évidemment, ça va lui faire du bien, comme Cristiano Ronaldo, qui était un peu en difficulté du côté de la Juve ces derniers temps, mais voilà, on espère juste qu'il soit épargné par les blessures. Par contre, récupérer sa place à Liverpool, ça va être compliqué, parce que l'équipe, franchement, elle tourne d'une manière assez remarquable, et on sait que c'est pas non plus un adepte forcément du turnover, Jurgen Klopp, même s'ils sont sur plusieurs tableaux. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Naby Keïta retrouve des sensations et la sélection peut lui permettre aussi de reprendre de la confiance. Moi, je trouvais que sur la dernière CAN, son cas avait polarisé trop d'attention et avait pollué l'environnement du Sili national.
C'est vrai que vous me rappelez la sortie houleuse de Ronaldo. Hein. Je fais une petite parenthèse avec la Juve. Il était censé pas être très bien. Bon, du coup, voilà, triplé avec le Portugal pour remettre les pendules. Alors, on aura l'occasion d'en reparler dans Radio Foot. Voilà, Mali et Guinée, le groupe A des éliminatoires de la CAN 2021. Et l'Algérie dans tout ça. L'Algérie qui débutait sa campagne éliminatoire. Les Fenech champions d'Afrique qui ont plutôt tenu leur rang. On écoute.
Oui, monsieur.
On écoute.
Et le corner frappé par Belaïli. Ça fait un but à zéro pour l'Algérie. Juste avant la mi-temps. Belaïli pour le corner. Ben Zebaïli pour le coup de tête. Belaïli qui s'engouffre dans les derniers mètres. Oh, il y a contact, il y a penalty. Et ouais. Ça fait deux. Bagdad Bounedja qui permet à l'Algérie de s'envoler dans ce match. C'est bien fait avec Belaïli. Belaïli qui se met sur le pied droit. Oh
c'est bien joué.
Uruguay.
Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué.
Et ça fait 4. Soudani pour le 4e but. Sous une pluie battante ici à Blida. L'Algérie qui cartonne pour cette première dans ses éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2021.
Ah oui, je dis, l'Algérie débute plutôt bien, mais l'Algérie débute extrêmement bien. Oui. Succès 5-0 contre la Zambie. La Zambie, c'est pas rien, tout simplement. Champion d'Afrique en 2012, notamment.
Ouais, il faut relater. Alors, sans rien enlever au mérite de l'Algérie qui a été patiente.
C'est ce qui s'appelle tenir son. Hein.
Qui a mis le temps pour un peu débloquer ce verrou zambien. Mais la Zambie jouait sans tous ses joueurs de moins de 23 ans, qui disputent actuellement la CAN des moins de 23 ans en Égypte. Pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Mais ça n'enlève rien au mérite offensif de l'Algérie sur ce match.
Après, bon, le score est, je trouve, pas un peu trompeur, mais ça s'est quand même surtout décanté en deuxième mi-temps, puisque la première mi-temps était plutôt accrochée. Cette Zambie, franchement, elle n'est pas venue en victime expiatoire sur ce match, puisqu'on a dû attendre la fin de la première mi-temps et sur coup de pied arrêté pour voir l'Algérie débloquer la situation. Et ensuite, les Zambiens ont quand même fait reculer les Algériens par séquence. Mais après, il y a un truc qui fait la différence, qui s'appelle effectivement peut-être la dynamique, mais qui s'appelle surtout le talent. Eh ouais, en Algérie, il y a des talents hors normes. Belaïli, c'est un talent hors normes. Bounedja, c'est un talent hors normes. Riyad Mahrez, c'est un talent hors normes. Quand tu as des joueurs comme ça qui
tirent... Mahrez qui n'a même pas eu à marquer.
Ouais, il a fait une passe
Bounedja
sur le dernier.
Deux buts, Belaïli
voilà.
Un but.
Mais... Et quand tu as un collectif qui est bien huilé, eh ben, des talents comme ça, ils peuvent s'exprimer et faire largement la différence. Ouais, c'est un très bon résultat pour cette équipe algérienne, mais il ne va pas falloir s'assoupir.
Elle envoie un message. Non, c'est trop tôt.
Non, elle envoie. Je pense que l'adversaire le plus dangereux dans cette poule, c'est le Zimbabwe, sur ce que j'ai vu. Parce que la Zambie, comme on l'a dit là, elle était amputée de beaucoup de ses meilleurs éléments, des joueurs du RB Salzbourg notamment, qui sont à la CAN des moins de 23 ans.
Ils auraient pu en ramasser 5 aussi. Hein.
Certes, mais c'est, c'est pas exactement la même équipe. Il y a quelques joueurs de technique un peu supérieurs à ce qu'on a vu ce soir dans ces moins de 23. Bon, c'est, ça fait pas tout. L'Algérie, dans cette poule, elle est presque certaine de se qualifier. Alors, il y a des déplacements assez longs à gérer en Afrique australe.
Au Botswana.
Botswana,
notamment.
Zimbabwe, Zambie, c'est loin. Quand on vient d'Europe, c'est plus compliqué que d'aller jouer juste en Algérie où c'est à 2 heures d'avion.
Bien sûr.
Bon, mais malgré ça, la différence sera énorme et l'Algérie devrait passer haut la main dans ce groupe.
Le groupe F des éliminatoires de la CAN 2021 à présent. Je rappelle qu'on parle toujours de la première journée. La victoire du Mozambique face au Rwanda 2-0. Résultat, le Mozambique prend la tête de cette poule qui est aussi celle du pays hôte. Le Cameroun, le groupe D à présent. On va terminer là-dessus. Il y avait un choc d'Afrique centrale. La RDC recevait le Gabon 0-0 au final et donc une bonne opération. Pour le Gabon, le Gabon qui n'était pas là
absolument.
En Égypte lors de la dernière
et la RDC qui confirme ses difficultés à domicile qui datent de qui sont récentes. Jusqu'à présent, le stade des Martyrs était une vraie forteresse imprenable. Les Martyrs étaient les adversaires en général. Et là, depuis deux campagnes éliminatoires, ça se passe mal. La RDC avait été éliminée pratiquement chez elle par la Tunisie pour la qualification à la Coupe du Monde 2018. Et lors des dernières éliminatoires pour la CAN 2019, elle avait été battue chez elle par le Zimbabwe. Elle avait eu beaucoup de mal à battre le Liberia au dernier match. Donc le Stade des Martyrs n'est plus la forteresse imprenable qu'il était.
Nabil.
Non, deux équipes qui en plus repartent sur une nouvelle dynamique. On avait vu la RDC en amical, notamment face à l'Algérie. Vraiment, avec, on a vu des choses intéressantes, des joueurs vedettes, stars, phares qui se sont remobilisés. Un nouvel élan.
Bolassier était absent aujourd'hui.
Ouais, c'est dommage parce qu'il fait quand même des différences certaines. Et puis le Gabon qui redémarre également sur un nouveau cycle. Voilà, autour de Pierre-Emerick Aubameyang notamment, ou d'autres joueurs qui sont en forme comme Bouanga du côté de Saint-Etienne. Pour moi, voilà, c'est...
Et Lemina et Galatasaray aussi, qui s'est bien repris.
Oui, là. C'était quand même une anomalie de pas les voir. C'est alors, Gabonais lors de la dernière qui a vu les qualités individuelles.
Ça reste une bonne équipe avec des bons joueurs.
C'est un peu paradoxal parce qu'effectivement, les deux équipes entament un nouveau cycle après des résultats décevants. Mais les deux le font avec à peu près les mêmes joueurs. Pour l'instant, les nouveaux coachs, donc Christian Sengui et Patrice Neveu, n'ont pas encore recruté entre guillemets des nouveaux joueurs, notamment
pas
chez les binationaux.
Pas les mêmes profils de sélectionneurs, en revanche.
Non,
il y a un local d'à côté.
Sengui, qui est un local, même s'il est secondé par notamment Christopher Walembo, qui est quelqu'un de la diaspora, mais effectivement, et Neveu, qui est plutôt un vieux routier des sélectionneurs européens en Afrique, mais les deux n'ont pas encore mis leurs pattes sur cette équipe en apportant des correctifs et des nouveautés. Ils surfent encore sur le groupe constitué par leurs prédécesseurs, donc j'attendrai encore un peu pour les juger vraiment.
La prochaine journée des éliminatoires dans quelques jours, hein, parce que c'est vraiment une séquence première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Gabon, Angola. Et Gambie-RDC,
Gambie a battu l'Angola lors de la première. C'est un joueur que j'adore, que je suis depuis très longtemps.
C'est qui a mis deux buts en Angola, absolument.
C'est un joueur extrêmement talentueux.
Excellent. Il y a aussi de bons défenseurs. Il y a Omar Kolé qui est titulaire à Sampdoria.
Ouais. Ça devient une forme d'épouvantail dans ce groupe, la Gambie.
C'est pas évident et jouer là-bas, le terrain est difficile. En revanche, le Gabon a tout intérêt à se méfier de l'Angola qui a abandonné 3 points chez lui, qui va vouloir les rattraper. Et la marge du Gabon sur l'Angola ne me paraît pas énorme. Donc, méfiance pour les Panthères.
Non, ça va être un groupe franchement disputé, homogène, intéressant, avec comme épouvantail, effectivement, la Gambie.
Merci. Patrick Juillard, Nabil Djellit, visiteurs du soir. Merci Laurent Salerno, David Finzel qui ont veillé tard pour ce retour de Radio Foot en direct. Et puis on se retrouve demain bien sûr pour le Café des Sports. Je vous rappelle que la France est qualifiée pour l'Euro, la France qui a battu la Moldavie de 2-1 et qui est en tête de son groupe de qualification pour le championnat d'Europe des Nations. Ciao, très bonne soirée, à demain sur RFI.